Et vous écoutez France Culture. Jusqu'où allez-vous trop loin ? Jusqu'où on peut aller ? Claude Autant-Lara. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui ira ce soir en compagnie de son biographe Jean-Pierre Blaise et de Bertrand Tavernier à la rencontre de l'univers de Claude Autant-Lara, du mariage de Chiffon à En cas de malheur, de Douce à la traversée de Paris. Autant-Lara n'a en effet jamais cessé de porter un regard détonnant, noir et sulfureux sur une société française dont il honora les classiques mais conchia la médiocrité et la bien-pensance. Autant-Lara ou l'huile sur le feu, c'est maintenant dans Mauvais genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre cinéma ce soir avec ce maître-livre qui est disponible depuis quelques semaines. Il est signé Jean-Pierre Blaise, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Pierre Blaise, vous avez consacré près de 10 ans de votre vie à Claude Autant-Lara, à peu près.
10, c'est peut-être un peu beaucoup, oui. Un peu exagéré. J'ai commencé en mars 2010, j'ai terminé en fin décembre 2016, ce qui fait à peu près 6 ans et demi.
Voilà, en tout cas, le résultat est là. C'est un maître-livre sur ce réalisateur sur lequel il faut véritablement revenir, à la fois pour son œuvre cinématographique, parce que la fin de sa vie, comme on le sait, a été ternie par des propos inqualifiables à l'époque où il était devenu député et militant lepéniste. Donc on va revenir sur la trajectoire et la personnalité de Claude Autant-Lara. Bonsoir Bertrand Tavernier.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous signez, bien sûr, une préface passionnée à ce livre. Et puis on peut retrouver Claude Autant-Lara dans votre dernier voyage au cœur du cinéma français.
Oui, c'est un des épisodes, on en parle longuement. Dans l'épisode 5, la nouvelle vague de l'occupation.
Ah oui.
qui parle de Lara, de Clément et de Clouzot. Qui sont des metteurs en scène qui ont...
Becker.
Oui,
non, mais dans l'épisode...
C'était déjà fait l'épisode. Becker, j'en avais parlé dans le long-métrage.
Oui,
de parler. Et l'expression, la nouvelle vague, vient de Truffaut, qui disait, on pouvait parler à ce moment-là de nouvelle vague, puisqu'il y a eu plus de metteurs en scène qui ont débuté pendant ces 4 années que pendant la décennie précédente. Oui. Voilà. Donc, et je dis beaucoup de bien de Lara, et donc du coup, évidemment, j'ai fait la préface de ce très beau livre sur Lara, et qui, je trouve, qui remet les choses en place, parce que vous avez parlé, en effet, de certains de ses propos qu'il a tenus tardivement dans sa vie, mais ce qui est un peu exaspérant, c'est qu'on ramène toute son œuvre, et une œuvre qui est très importante, à ces quelques propos tenus des années après qu'il ait cessé de travailler.
Tout à fait.
Comme ça, et qu'on le limite à ça, ce qui se trouve est faire preuve d'une ignorance absolument énorme, c'est oublier les causes qu'il a défendues, qui, pour la plupart d'entre elles, n'auraient pas été soutenues par le Front National. Même j'avais, dans un débat que j'avais eu avec Bruno Gollnisch, j'avais dit, moi je rêve d'une chose, c'est de vous montrer « tu ne tueras point ». Et de voir comment vous réagissez à cette apologie de l'objection de conscience tournée en pleine guerre d'Algérie.
On va en parler, Bertrand Tavernier. Bonsoir Philippe Rouillet.
Bonsoir.
On vous a déjà entendu, on sait que vous êtes là, mais c'est vrai, un des paradoxes les plus insupportables en ce qui concerne Autant-Lara, c'est que cet homme qui a passé pendant des années comme le rouge d'entre les rouges, comme un nanar, comme l'homme qui faisait à la fois la défense de la contraception, de la liberté de penser, qui a sûrement livré les films les plus dévastateurs sur la société française de la Belle Époque ou même de la 4ème République, et finit comme ça par devenir le parangon du lepénisme à l'européenne.
Bah oui, mais c'est pour ça qu'on est là, enfin c'est pour ça qu'il y a ce livre de Jean-Pierre Blaise, et c'est pour ça qu'on a tellement envie d'en parler aujourd'hui à Mauvais genre, parce qu'il faut aller voir les choses. C'est-à-dire qu'entre on retient l'image du Front National et soi-disant les, enfin c'est pas soi-disant, les écrits de Truffaut qui seraient contre, en oubliant que Truffaut a aussi écrit beaucoup de bien d'au moins 2 films de Lara, qui sont La traversée de Paris, En cas de malheur. Mais donc, entre une espèce de détestation de la nouvelle vague des années 60, des cahiers jaunes, et puis le Front National, ça suffit pour faire un paquet et le jeter dans la Seine. Et alors que nous, on sort ça de la Seine, voilà, et on regarde les films. Et les films, ils sont totalement épatants. Enfin, pour certains d'entre eux. Parce que tout autant Lara est pas génial. Il a fait des films qui sont pas bons du tout, sur lesquels on s'appesantira pas parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais dans le livre de Jean-Pierre Blesse, c'est pas une hagiographie. Il vous dit pas que ce type est déjà le meilleur des hommes. Il vous dit pas non plus que tous ses films sont des chefs-d'œuvre. Mais quand c'est raté, c'est intéressant aussi d'aller voir pourquoi c'est raté.
Voilà, merci messieurs. Bah, donc ce soir, dans Mauvais Genre, l'homme qui se voulait, le poivre sur la plaie, l'huile sur le feu et le feu aux poudres. Et l'on va voir comment. Mais avant cela, ouverture solennelle de notre encyclopédie pratique des mauvais genres avec Céline et la lettre
S comme Schiavone, Cheyenne, Schiavone.
Il y a régulièrement des chiens ou des agressions qui viennent de l'extérieur. Et bah, ce chien-là, je ne savais pas trop comment m'en sortir pour pas qu'il attaque mon frère, donc je lui ai crevé les yeux avec les doigts, et puis ça allait mieux après. Je lui ai crevé les yeux, j'avais creusé un trou, je l'avais bien mis sous terre, puis j'avais passé des lames de verre pour être sûr qu'il soit bien mort, un truc bien glauque. Puis le lendemain, quand je suis venue, il y avait la carcasse du chien, mais qui était vide, il n'y avait plus d'os, plus de chair, une espèce de couverture molle. Voilà.
Rien de tel qu'un bon rêve pour régler ses comptes avec les présences indésirables. Chiens aux crocs pointus, hommes vénaux, demeures pleines de chausse-trappes et de personnes malveillantes. Qu'à cela ne tienne, Cheyenne Schiavone se révèle la nuit pleine de ressources et prête à tout pour se sortir des pires situations. Et au réveil, l'artiste se sert de ses matériaux nocturnes pour en faire de grandes aquarelles. Chez elle, sur les murs, ses tableaux, on passe ainsi de rêve en rêve.
Je fais beaucoup de rêves qui ressemblent plus à des cauchemars, mais qui ont une esthétique qui fait que je m'y penche un petit peu parce que je trouve ça intéressant. Et dans ce rêve-là, dans le rêve qui a inspiré du coup la peinture de Délicatessen, je pense qu'on est dans un monde un peu post-futuriste. Et où en fait l'économie n'existe plus telle qu'elle est maintenant, et n'ayant pas de moyens de subsister dans cet univers-là, en fait je servais d'appât au boucher en fait, qui allait récupérer de la bidoche humaine, ou ce qui se trouve en fait.
Alors de ce rêve-là, vous en avez fait un tableau.
Faut savoir qu'à la base, le rêve que je fais, de toute façon, il n'y a pas nécessairement la scène qui est sur le tableau qui m'apparaît. Je fais, moi, mon petit montage un petit peu comme un affichiste, je suppose. Et je me débrouille un petit peu avec tout ça. Alors, sur ce tableau, vous avez à l'arrière-plan une vieille boucherie. Je pense que la devanture ressemble beaucoup à celle qu'on faisait dans les années 30-40. Il y a moi, au milieu. Et il se trouve que je suis nue et qu'à la place de mes parties génitales, vous pouvez voir s'articuler à un bâtiment, en tout cas un escalier qui mène plus haut. Voilà. C'est un corridor, il y a un grand escalier avec un monsieur qui arrive avec son sac. Et puis, il a l'air d'hésiter un petit peu à entrer, mais je crois qu'il va rentrer, il n'a pas le choix de toute façon.
Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent ?
Il y a un truc qu'on m'a beaucoup dit quand j'expose, qui est que je suis souvent nue sur les peintures, et je sais pas si tout le monde vit cette chose-là, mais je crois qu'on est assez nombreux où, dans le domaine des rêves, dès qu'il y a un petit peu de danger, on se retrouve à poil. Et voilà, du coup, c'est pas un truc que j'ai particulièrement voulu, mais qu'en soi, je trouve pas désagréable.
D'être nue dans les rêves ou de se peindre nue?
Ah, plutôt d'être nue dans les rêves. Même le rendu esthétique au final est quelque chose qui me plaît plus. Je suis plus attirée par quelque chose d'animal que... ce qui correspond bien au feeling qu'on a dans un rêve qui se trouve être un mauvais rêve.
Pour retrouver l'univers de Cheyenne Schiavon, vous pouvez aller sur son site internet www.cheyenneschiavon.fr ou vous rendre au Salo 6, le salon du dessin érotique organisé tous les ans par l'intrépide Laurent Kénéen. Cette année, ce sera du 15 au 18 juin, boulevard Ménilmontant à Paris, mais aussi dans d'autres lieux parisiens comme la Galerie de la Voûte, chez l'artisan poissonnier Charlie de la rue Oberkampf ou chez l'artiste Alberto Sorbelli, avec en apothéose finale l'Ovélo de Guillaume Dimanche qui nous promet une visite du parcours érotique en vélo et en maillot de bain. Ce sera le 17 juin. Une centaine d'artistes seront au rendez-vous de Salo 6, dont l'onirique, bien sûr, Cheyenne Schiavon. Plus d'informations sur le site de Salo 6, www.salo.salaison.org. Et attention, événement réservé aux grands garçons et aux grandes filles de plus de 16 ans.
De plus de 16 ans, merci. Céline, on sait, puisqu'elle a été dispersée récemment, que Clouzot était un grand collectionneur d'œuvres d'art contemporaine. Est-ce que Jean-Pierre Blais, Othon Lara, aimait les arts plastiques, les collectionnaient? Est-ce qu'il était collectionneur?
Je ne crois pas. Il avait des livres, il aimait des livres consacrés aux petites histoires de la France, et ça se retrouve un peu dans le film Vive Henri IV, Vive l'amour.
Bibliophile. Donc.
Oui, mais sur le plan des arts plastiques, il avait des goûts très traditionnels, comme d'ailleurs en musique. Pour lui, Picasso et Braque et tous les gens de cette génération-là ne sont pas des vrais peintres, ce sont des barbouilleurs. Ça vous montre quand même les limites.
Donc Cheyenne Schiavon avait peu de chance, à mon avis.
dans la collection à Saint Lara.
Parce qu'en plus, il est prude.
Oui, oui. Et sur, pour continuer dans le domaine de la musique, il était aussi de goût très traditionnel. Par exemple, je le cite, Antoine Duhamel dit dans un entretien, c'est lui qui a fait la musique du franciscain de Bourges. Il dit, ça, la collaboration n'est pas allée très loin. Manifestement, dès qu'il y avait des dissonances un peu rudes, ça ne lui allait plus. Ses goûts s'arrêtaient à Brahms. Après Brahms, ça n'allait pas.
Ni Liszt, ni Wagner, Bertrand Tavernier.
Oui, ce côté-là, oui, c'est évident que surtout. Alors, ce qui est curieux, dans sa jeunesse, il était beaucoup moins, sans doute forcé par ses parents, puisqu'il va participer à cette aventure incroyable qu'est le théâtre Action, fondée à la fois par son père et sa mère, où ils vont monter énormément de pièces d'avant-garde.
Chez eux,
l'appartement, là. Ouais. Et. Les décors que faisait Lara sont parfois il y a des idées qui sont très futuristes, qui sont très audacieuses pour l'époque. Ouais. Donc là, il a eu un moment où il était absolument en phase avec les recherches les plus poussées.
Bah, il travaillait avec l'herbier sur l'univers.
Oui, mais non, il faisait des décors, les pièces qui montaient, il y avait Mayakovsky, il y avait énormément d'auteurs, c'était incroyablement audacieux, cette aventure théâtrale, les parents se sont ruinés.
Mais il avait 18 ou 20 ans, et il était encore, sous l'influence de ses parents.
La première partie, donc, de la jeunesse, de la vie de Claude Othon Lara, que nous allons évoquer dans quelques minutes. Merci Céline.
L'heure à la semaine prochaine.
Pour nous, merci à la semaine prochaine de nous engager à la suite de Jean-Pierre Blais et de Bertrand Tavernier dans le monde de Claude Othon Lara.
Si l'auteur d'un film est celui qui se dégage du lot de l'équipe, qui marque le film de sa personnalité, il se peut que ce soit quelquefois l'auteur, quelquefois le réalisateur, quelquefois aussi même la vedette. Mais moi je crois que le véritable auteur d'un film, c'est celui qui en est le responsable artistique. Et je crois que l'on ne peut pas dénier au réalisateur du film, au metteur en scène, d'être ce personnage.
Voilà, des propos de Claude Othon Lara, enregistrés à la Tribune de Paris. Nous étions le 20 février 1946. Pas mal de problèmes, mais de problèmes sont posés. Jean-Pierre Blais, il y a à la fois la personnalité prédominante du cinéaste par rapport au producteur, par rapport au scénariste et à la vedette, et l'affirmation vraiment d'une identité forte, une défense quasi corporatiste du créateur de cinéma.
Oui, ça, autant Lara s'est toujours considéré comme le responsable du film, de tous les aspects, et il n'a jamais accepté de partager cette espèce de responsabilité avec d'autres. Et il s'est même opposé à des gens qui voulaient, en tout cas selon lui, empiéter sur ses prérogatives. Il y a un exemple, bon, c'est un peu du détail, mais c'est intéressant et révélateur, c'est à le propos du film Ciboulette. Premier film qu'il ait fait dans le système du cinéma français, premier long métrage en 1933. On lui avait proposé, c'était l'adaptation de
l'opérette de Reynald Dohan.
Célèbre de Reynald Dohan. Et il y avait un responsable musical qui était Albert Villermoz. Et il y a eu des divergences de vues sur le problème notamment de l'interprétation par Simone Berriot. Et Villermoz aurait souhaité certaines choses et autant Lara les a refusées. Et très vite, ou en tout cas à la fin, il y a eu une rivalité très 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 forte et très violente entre les deux hommes. Ce qui me laisse penser que autant Lara, elle n'était pas capable de négocier avec quelqu'un, parce qu'avec des producteurs pour des films ultérieurs, il a eu aussi ce genre d'affrontement. Et je crois que ça faisait partie effectivement de sa personnalité. De vouloir absolument tout contrôler. Alors peut-être Bertrand Tavernier va nuancer ça.
Moi, je refuse un peu, ou je conteste le mot corporatiste. Je pense que les batailles, Lara, elles préfigurent les combats que vont mener justement les cinéastes de la Nouvelle Vague, qui disent que le réalisateur, Hawks et Hitchcock, étaient les auteurs de films. C'est ce qu'ils avaient lancé, Chabrol et tous ces gens-là avaient lancé. En fait, Lara disait la même chose. Et il s'est battu. Là, il faudrait quand même dire, nous, moi, mais tous les gens qui font du cinéma en France à l'heure actuelle, on doit beaucoup à Lara, qui s'est battu contre l'hégémonie des producteurs, contre le fait que les producteurs voulaient contrôler le montage. Lara s'est battu pour le droit du metteur en scène de contrôler le montage final du film. Il a pris des risques. Il a mené des batailles qui sont des batailles d'avant-garde là-dessus. Je veux dire, c'est extraordinairement important, ça. Et c'est pas un combat corporatiste. Parce que
Je voulais dire corporatiste. Le mot est mal choisi. C'était plutôt l'identité du travail.
Oui, parce que en même temps, il respectait énormément le travail des scénaristes. Il a eu un rapport très fort avec Orange et Boss, surtout avec Jean Orange, parce que les rapports avec Boss étaient beaucoup plus compliqués. Il n'a jamais beaucoup aimé Boss. Jamais. Et Boss lui faisait un peu peur. Boss, qui était très, très rigoureux, lui faisait un peu peur. Mais il a eu un rapport fort avec eux. Et moi, je n'ai jamais entendu Orange me dire qu'il avait pensé que Lara usurpait son titre d'auteur de film. Jamais, il disait, mais il y a un film de Lara, même si lui-même n'a pas contribué au dialogue d'une scène, c'est un film de Lara. C'est qu'il a, quelque part, il a imposé son esprit, ses idées, même sans les écrire. Voilà, c'était...
Oui, mais il y a d'ailleurs, on a vu dans un bonus de DVD, je crois que c'est celui autour de l'Auberge Rouge, où il explique ça, Lara, qu'il ne peut pas laisser ses scénaristes avancer sur le film sans lui. Même s'il est là et qu'il ne dit rien, ça va infuser sur ce qui va être décidé. Et c'est vraiment quelqu'un qui va accompagner tout qui est dans la salle de montage. Et avant le tournage, il fait un découpage technique.
Oui.
Et c'est parfois, d'ailleurs, peut-être une limite. S'il est trop enfermé dans son découpage technique. Mais en tout cas, penser en termes de cinéma, il est là aussi pour ça. Aussi bien pour les dialogues que pour la moindre question du scénario, il accompagne vraiment tout le film.
Oui, la distribution, le choix des sujets, là, c'est quelqu'un qui a fait très peu de films de commande. Très peu de films de commande. Il en a fait parfois, peut-être mais la plupart des films... C'est lui qui a imposé ces sujets et souvent qui s'est bataillé pour les imposer. Oui. Alors parfois il y en a certains qui ont été trouvés par les scénaristes. Je pense que c'est Orange qui lui amènera la nouvelle de Marcel Aimé, la traversée de Paris. l'idée de le faire, qui remontait d'ailleurs des années avant que le film soit réellement fait.
Dès l'apparition de la nouvelle, c'est-à-dire dès 1947, les droits ont été achetés par un petit groupe, une association.
Oui, avec Orange,
la compagnie
Orange,
Jean Gabin,
Ruth Salzmann et Gabin.
Et, Gabin, voilà.
et ça a foiré, racontait Orange, parce qu'un jour, ils étaient pour aller voir des distributeurs et Ruth Salzmann était là, elle devait présenter Gabin et elle a oublié son nom. Elle a dit elle s'est tournée vers lui, elle se souvenait plus.
Alors, la traversée de Paris, on va bien évidemment en parler, en entendre un extrait, mais avant cela, on va s'intéresser justement à cette première période de la vie et de la carrière de Claude Autant-Lara depuis sa naissance 1901, parce qu'il faut dire que c'est une vie, c'est une véritable traversée du siècle. Il est né en 1901, il meurt en 2000 à 98 ans, donc c'est quelqu'un qui a véritablement parcouru un siècle, on peut le dire, d'histoire de France, mais on va s'intéresser donc plus particulièrement à ses tout débuts et à ses parents. Voilà, la musique du Diablo Corps de René Cloërec, qui est quand même le musicien de Claude Autant-Lara, puisqu'on le verra, cet homme a une grande fidélité, une équipe constituée, puisque tout au long de sa carrière, que ce soit évidemment les scénaristes, les opérateurs, le décorateur Max Douy et le musicien René Cloërec, c'est toujours une même équipe qu'on retrouvera et qui avec lui continuera de travailler. Alors on va évoquer cette première, parce que votre livre, Jean-Pierre Blesse, est découpé en un certain nombre de périodes. Et la première période, c'est justement la période qui va jusqu'en 1939, où on voit ce rejeton d'un couple éclairé, d'artistes.
Le père est architecte et la mère est comédienne, et pas n'importe quelle comédienne. Elle est à la Comédie Française. Hein, donc c'est, je veux dire, c'est vrai.
C'est une femme célèbre, une
actrice
célèbre.
C'est une femme célèbre. Et c'est ce que disait Bertrand Tavernier tout à l'heure. Tout d'un coup, ils vont décider d'engouffrer toute leur fortune dans un théâtre à domicile, le théâtre Action, où ils vont monter des pièces. Et l'idée, et c'est en cela qu'ils engouffrent toute leur fortune, c'est que c'est gratuit, c'est interdit aux critiques, et c'est gratuit. Donc ça veut dire que pendant 25 ans, c'est-à-dire 25 ans cette aventure, ils montent des spectacles. Alors le jeune Claude va créer des décors pour ça. Et en fait, il commence sa carrière en fait comme décorateur, donc des pièces familiales, et puis il va travailler comme décorateur pour le cinéma.
Marcel Lherbier, qui connaissait ses parents, a vu qu'il travaillait dans le décor de théâtre. Donc Marcel Lherbier l'a embauché pour faire des décors dans ses films à lui à partir de 1919 et 20. Il a été assistant réalisateur, ça dépend des films, mais il y a toute une période de collaboration avec Lherbier sur plus ou moins tous les films de Lherbier jusqu'à L'Inhumaine en 1924, qui restait un film célèbre. Et alors en même temps, Autant-Lara voulait quand même faire des films à lui. Il avait un désir de devenir réalisateur, comme des gens qui étaient, semble-t-il, ses proches, voire ses amis, René Chaumette, qui est plus connu sous le nom de René Clair, et Jean Renoir. Et c'est de cette façon que Claude Autant-Lara a travaillé aussi avec ces deux réalisateurs, comme assistant, par exemple, en tract, au moins une partie du tournage, parce que le tournage a été fait en plusieurs fois. Autant-Lara a été l'assistant, et Autant-Lara a fait les décors, les costumes de Nana, et il joue d'ailleurs aussi un petit rôle, sous un pseudonyme. Et là, je crois qu'il y a eu une sorte de jalousie ou d'amertume d'Autant-Lara, qui voulait, comme l'a dit Bertrand Tavernier, faire des films absolument personnels et qui a refusé sans doute déjà à ce moment-là des commandes. Et il a vu ses camarades René Clair et Jean Renoir faire des films et entrer en quelque sorte dans la carrière cinématographique et dans l'industrie du cinéma, ce qui compte quand même, quand on a fait déjà quelque chose, on est connu, alors que lui, dans le muet, n'a pas fait grand. Il a fait un court-métrage qui a eu une diffusion très 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 confidentielle, Fait divers, et un long-métrage, Construire un feu, qui a été projeté dans un studio, une petite salle d'arrêt d'essai qui était l'ancêtre du studio Parnasse, mais qui n'a pas eu non plus...
Mais vous expliquez très bien dans le livre pourquoi ça n'a pas eu de succès. Alors qu'il faut le rappeler à nos auditeurs qui ne savent pas, c'est le premier film en scope.
Oui, oui.
Tourné avec l'hypergonard du...
L'hypergonard du professeur Chrétien. Voilà,
c'est pas dans Tintin, il y croit beaucoup.
C'est la préfiguration.
Mais là, il est en avance. Lui, là, au niveau plastique, au niveau visuel, il a tout d'un coup cette idée qui est formidable. Et d'ailleurs, dans beaucoup de films ultérieurs, je trouve que son expérience de décorateur lui permettra de trouver des idées ingénieuses, une utilisation des décors qui est souvent très, très, très astucieuse, notamment, par exemple, dans Occupe-toi d'Amélie.
Ouais. Je pense et que ça... Éblouissant, enfin, oui, on en parlera oui, tout oui. à l'heure, mais c'est incroyable.
Donc, je crois que ça a joué, mais c'est pour ça... Quand on dit qu'il était traditionnel dans un domaine, dans d'autres, il ne l'était pas. L'idée d'être le premier à tourner en scope oui. et d'essayer d'alerter les gens sur l'importance de ce procédé et qui va finir par nous échapper, par être...
Acheté par les Américains.
Le professeur Chrétien, si on lit le livre de Jean-Pierre, ne paraît pas un individu blanc-bleu.
Il essaie de tout vendre aux Américains.
Et, c'est vénal.
Et le problème, c'est qu'une fois qu'il a tourné, une fois qu'il a tourné le film, il a besoin quand même du matériel pour le montage.
Oui.
Et l'autre retarde le moment, si bien que le film ne va être prêt qu'en 1930.
Oui.
Et en 1930, les gens, ils n'en ont rien à faire d'un film. Même en scope, ils veulent voir des films parlants.
C'est le début du parlant. Et effectivement, Construire un feu a eu énormément de mal à se faire une petite place sur les écrans français de l'époque.
Et, oui.
Et alors après, le film a été perdu, on ne sait pas trop comment, mais la copie, le négatif est détruit.
Et on ne peut pas le voir.
Tout est détruit, ce qui fait qu'on ne peut pas le voir.
Alors peut-être on peut espérer que ça ressurgisse un jour. Il y a des tas de miracles dans l'histoire du cinéma. Il ne faut jamais dire jamais. Hein. Mais enfin, en tout cas, c'est pas l'ordre du jour, hein, c'est mal parti.
Comme il y a eu très peu de copies de tirées au moment, ça serait vraiment un vrai miracle encore plus que dans d'autres cas, disons.
Alors, autre aspect, Philippe Rouillet, de cette première période de la carrière de Claude Autant-Lara, c'est le moment américain, le moment anglais.
Ben oui, ça, il y a le moment américain, alors, il se retrouve dans la colonie française aux États-Unis, où il
Jacques Feder et Françoise Rosay.
Et puis, alors, finalement, il se retrouve à faire des versions françaises. Ouais. De films avec Buster Keaton. Enfin, je veux dire, c'est délirant.
C'est curieux.
Lier le nom d'Autant-Lara à Buster Keaton, enfin, je veux dire, c'est pas tout le monde qui aurait pensé ça, quoi. C'est l'époque où on fait des versions internationales des films au lieu de les doubler ou de les sous-titrer.
Les studios américains demandaient effectivement à des acteurs français sous la direction d'un réalisateur français, donc ça a été Autant-Lara pour trois films, je crois, demandaient que l'on fasse une version qui soit absolument conforme, plan par plan, avec les mêmes cadrages, généralement le même chef opérateur, donc les mêmes lumières, pour que le film soit fait dans la langue française et sorte en France, parce que à l'époque, le procédé de doublage n'était pas du tout au point, et c'est assez curieux, mais il y a une période, 1930, 31, 32, où les studios américains eux-mêmes ne savent pas trop finalement comment se débrouiller, et quelle méthode, quelle technique va être mise au point. Donc ils ont essayé plusieurs choses, parce qu'Autant-Lara a fait donc des copies, c'est-à-dire version française, mais aussi des doublages faits aux États-Unis même, sur lesquels il a quelquefois passé un temps fou, parce que quand il avait une idée, quand il faisait un travail, il le faisait le mieux possible et à fond. Il a fait, par exemple, avec 3 mois de travail à Hollywood, une version française, alors des acteurs américains, mais parlant français, c'est-à-dire doublé en français, avec des acteurs français qui étaient à Hollywood, de La Pente, un film qui, je crois, s'appelle en version originale Dance, Fools Dance, oui. d'Henri Beaumont.
Oui.
Et quand le film est sorti à Paris, dans cette version française, la critique a, au moins spécialisée dans la revue La Cinématographie Française, a trouvé que c'était une version française de qualité, et avec une espèce de découverte, en disant enfin un doublage qui est de bonne qualité.
Et le problème, c'est que Lara est presque mécontente, ça.
Oui.
C'est les contradictions du bonhomme qui sont déjà là.
Exactement. Ça, c'est effectivement. Alors,
parce qu'il y voit, il voit que le doublage peut être l'outil qui va permettre aux Américains de conquérir le marché français.
Cela dit, bien sûr, c'est curieux de voir que Lara est renversée en quelque sorte, de voir qu'on apprécie son travail. Il y a une contradiction. Mais c'est Lara qui raconte ça dans ses livres des années 80.
Oui.
C'est-à-dire que là, il ne faut jamais oublier que l'homme qu'il est dans les années 80, où il ne peut plus faire de films alors qu'il voudrait en faire, où il est déjà rejeté parce que la nouvelle vague a dit du mal de lui, le Lara de cette époque-là n'est sans doute pas du tout le même que celui des années 20 ou 30, c'est-à-dire de l'époque où il faisait ses premiers films en France ou ses travaux de doublage aux États-Unis.
Ah, il serait peut-être temps quand même de dire un mot de votre livre, parce qu'on est parti tout de suite dans le cœur du sujet, mais... Pour nos auditeurs, ce livre donc qui s'appelle Claude Autant-Lara qui est aux Instituts Lumière Actes Sud comme éditeur, il a des grandes qualités d'écriture. On le disait hors antenne, il faut le dire là.
Oui, c'est une très grande fluidité.
Très grande fluidité à lire, alors que il compile une énorme masse de documents. C'est-à-dire qu'il y a vos analyses personnelles, mais et par exemple, il faut savoir que Claude Autant-Lara a écrit ses mémoires sous forme de plusieurs volumes que vous citez abondamment, mais comme vous venez de le faire là, vous recontextualisez. C'est-à-dire que c'est pas Lara qui, à l'époque, écrit les choses, mais 60 ans après, avec un peu d'haine recuite et tout ça, et donc il faut prendre avec des pincettes ce qu'il dit de son propre travail ou de ses collaborateurs. Et c'est ce travail que vous faites, où vous confrontez les trucs rétrospectifs, mais aussi la presse de l'époque, les documents cinématographiques qu'on peut trouver, les scénarios, les voilà, et surtout l'accès au film. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous avez, sauf quand vous avez vraiment échoué à voir le film, mais comme Construire un feu, et vous le dites que le film est perdu et que voilà, vous l'avez pas vu, mais autrement.
Oui, alors, vous parlez du problème de l'accès au film. Je dis bien que les trois films faits en version... moi, j'appelle ça des copies françaises sur des films américains. Et là, il y en a deux avec Buster Keaton. Ces films-là sont absolument perdus. Parce que les États-Unis avaient des négatifs, puisqu'il y a deux de ces films sur les trois qui sont à la MGM, et la MGM avait gardé les négatifs. Mais comme le but de ces films, c'était de faire un équivalent d'un film américain, quand ils ont vu qu'il n'y aurait plus d'exploitation possible, c'est-à-dire sans doute à la fin des années 30, la MGM a décidé de tout jeter, y compris les négatifs. Et j'ai fait des recherches par l'intermédiaire de Patrick Brion, qui a été très serviable.
Et qui s'y connaît, exactement.
Et qui m'a dit, non, moi-même j'ai essayé d'avoir ces films-là, parce que ça serait intéressant de passer l'original avec Buster Keaton et le film français, où il y a d'ailleurs Buster Keaton aussi. Mais il dit, rien à faire.
Là aussi, on peut le mentionner, bien sûr, les films qu'il a fait avec Maurice Lehmann, Bertrand Tavernier.
Alors, bien sûr.
Ça,
bien
c'est sûr. Juste avant qu'il parle en son nom, il a parlé pour les autres.
Certains de ses films, d'ailleurs, le meilleur d'entre eux, qui est l'affaire du Courrier de Lyon.
Pierre Blanchard.
Le premier des trois.
Là, est écrit par Prévert et Orange. Prévert ne signe pas parce que Lehmann avait insisté pour qu'on rajoute dans le scénario une scène tirée du mélodrame d'origine. Ce qui a déplu énormément à Prévert, donc il n'a pas signé, seul Orange a signé, mais le film est extrêmement intéressant, et il est un peu sous-évalué dans la carrière, parce que même si Lara n'a pas pu exprimer tout ce qu'il voulait, parce qu'il raconte qu'il avait... il était persuadé de la culpabilité de Le Surgue. Je trouve ça assez... Il était parti en voulant faire un film sur une erreur judiciaire.
Et puis, il se rend compte
qu'il n'y a peut-être pas
d'erreur. Pas d'erreur.
Je trouve que c'est assez marrant, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais néanmoins, le film a une ambiguïté, a une force. Il y a une distribution qui est très, très intéressante. Très intéressante. Et le film se voit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir.
Il est très bien découpé. Il a un côté très moderne.
Oui, très moderne. Et Pierre Blanchard est tout à fait bon. Il y a déjà aussi des comparses de Prévert qu'on
voit
dans des
petits rôles. Alors ça, c'est une première partie de la carrière de Claude Autant-Lara qui s'achève en 1939 et qui précède ce que vous appelez vous-même la grande période.
Voilà.
Et cette grande période nous mènera donc de 1941 à 1942. 1958, on écoute l'extrait d'un des moments phares, je dirais, d'une des expériences clés d'Otto Laras à ce moment. C'est le film Douce, avec une scène que Vichy avait cru bon de couper, puisqu'elle moquait quand même la bonté humaine et la dignité.
La visite aux pauvres.
C'est la célèbre visite aux pauvres de Marguerite Moreno.
Je suis venue te souhaiter un heureux Noël et t'apporter un petit souvenir.
Oh, madame la comtesse, c'est trop bon.
Passez la camisole et les souliers. Seulement, je vais te demander de choisir, parce que tu comprends, tu n'es pas la seule. Qu'est-ce qui te manque le plus? Mademoiselle, passez le sapin et les mandarines. Tu vois, tu vas avoir ton petit arbre.
Oh, madame la comtesse, c'est ça le plus beau. Vous vous rappelez, chez monsieur l'abbé du manoir, on faisait aussi une crèche avec un Jésus, un âne, un bœuf.
Je t'en ai apporté un morceau.
Pardon.
De bœuf. Marani, vous avez le pot-au-feu?
Oh, madame la comtesse, c'est bien bonne.
Pot-au-feu?
Oui, je connais.
Et je vais te le chauffer, ton pot-au-feu. Mademoiselle, voulez-vous chauffer le pot-au-feu, s'il vous plaît? C'est incroyable. Vous n'avez pas l'air de vous intéresser à ces braves gens. C'est pourtant pas difficile de chauffer un pot-au-feu. Tu as bien ton nom, Thérèse.
Attendez, j'y vais.
Laisse. Aujourd'hui, c'est moi qui travaille pour toi. Marani, vous savez allumer un feu, je suppose.
Mon bois, ils vont me prendre mon bois.
Mais tais-toi, c'est un cadeau.
Oh, la jeune dame n'a pas l'air de savoir.
Il faudra qu'elle apprenne.
Voilà la scène mythique de la visite aux pauvres de Marguerite Moreno, la comtesse de Bonafé, dans Douce de Claude Autant-Laron, 1943.
C'est dommage, on a manqué la fin de la séquence où Marguerite Moreno, la comtesse, souhaite à sa bonne Thérèse la patience et la résignation.
Ce sont les deux phrases qui concluaient presque tous les discours du maréchal Pétain. Il parlait souvent de patience et résignation dans tous ses discours.
Ah, ça, je ne savais pas.
Oui.
Ah, bah oui.
Ça revenait toujours, ça.
Et puis après, il y a la fin.
Et Roger Pigault dit, vous auriez souhaité l'impatience et la révolte.
Voilà.
Et vous dites dans Voyage 5, vous dites, c'est en entendant cette réplique, parce que quelqu'un, un scénariste qui écrit, on vous souhaite la patience et la révolte en 1943, j'ai envie de le rencontrer.
Oui, c'est ça. C'est ce qui a déclenché chez moi la vision de ça. Je me rappelle, j'avais découvert le film au TEP, comme ça dans le 19e, qui était à ce moment-là programmé par Jean-Louis Chéret, l'ex-directeur du Parnasse. Et il avait projeté ce film. Et quand j'ai découvert ce film et que j'ai entendu cette réplique, je veux rencontrer les gens qui ont écrit en 43, souhaite l'impatience et la révolte. Et c'est comme ça que j'ai voulu contacter Jean Orange et Pierre Bosse pour mon premier film.
On est un peu là, Jean-Pierre Bless, dans le cœur du réacteur, si j'ose dire, puisque c'est la tétralogie Odette Joyeux,
oui.
Avec le mariage de Siphon, Lettre d'amour, oui. Douce, oui. Et puis
Sylvie
et le fantôme. Oui. Là, il y a véritablement donc la naissance et l'affirmation d'un réalisateur, d'un cinéaste, la constitution d'une équipe, et puis surtout la mise au point d'une vision. Parce que ce qu'on entend là, ça pourrait être signé Octave Mirbeau, Léon Blois, Georges Darrien, une vision très, comme ça, contestataire, libertaire, radical, noirissime de la société française, et en plus c'est un film de 43.
Oui, c'est vrai que les quatre films avec Odette Joyeux ont une sorte d'unité. D'abord, évidemment, la présence d'Odette Joyeux, et puis un intérêt du réalisateur et de ses scénaristes pour un personnage de jeune femme qui, plus ou moins, est entourée par une société un peu dure, un peu oppressive ou répressive. Et on peut dire que d'une façon ou d'une autre, cette jeune femme se libère un peu de cette espèce de carcan qui lui est imposé. Et voilà ce qui fait l'unité de ces quatre films. Alors évidemment, il y a aussi des variantes parce que les deux premiers sont des comédies. Donc le ton est quand même...
Enfin des comédies...
Un peu douce amère, mais en gros des comédies.
Plutôt amère que douce. Quand même des comédies, oui.
Quand même des comédies, oui. Alors que Douce est un drame total. Il n'y a vraiment pratiquement rien qui relève de la comédie.
Il y a des moments amusants, mais...
Oui, l'ascenseur, tout
voilà,
ça.
C'est des petites touches. Voilà. Et le quatrième est encore différent parce qu'il est dans le registre poétique. C'est une histoire de fantôme et donc du registre, fantastique avec Jacques Tati en fantôme. Jacques Tati que Odette Joyeux, elle le dit dans son livre de souvenirs à propos du film, ne voyait pas bien en fantôme. Elle aurait voulu Gérard Philippe.
Oui, comme auteur Lara, mais c'est une idée d'Orange, et moi je trouve que Tati est tout à fait...
Il a l'élégance.
Il a une élégance, il a un charme. Mais je voudrais juste ajouter une chose. On dit oui, toujours qu'il y a... Et Lara, il insiste presque trop sur le côté, oui, c'est l'âpreté, le venin, le...
Pas le venin, radical.
Lui, il dit un film sans venin et sans intérêt.
Mais il oublie toujours une partie de son œuvre. Il y a aussi un charme, il y a aussi une délicatesse chez Lara. Il y a une extraordinaire délicatesse dans la description de sentiments, et notamment des sentiments de jeunes femmes. Voilà, je crois que c'est aussi une chose sur laquelle il faut insister, parce que ça existera dans toute son œuvre. Je pense que déjà, là, je pense que c'est le cinéaste français peut-être le plus féministe. Je veux dire, il y a beaucoup plus que Clouseau, plus que d'autres, plus que Renoir. Mais dans tous ces films, les femmes sont presque souvent les héroïnes, presque les porte-paroles de la morale. Ce sont les victimes, mais ça ira jusqu'à En cas de malheur. Et la délicatesse de Lara, on la retrouve, par exemple, dans une scène très audacieuse d'Amour à trois, qui est traité avec une pudeur
dans
En cas de malheur.
Nicole Berger, Jean Gabin, Brigitte Bardot.
Et Nicole... Un début de Partouze, qui est effectivement...
Oui, l'extinction du feu, là, très trouble.
Mais qui est traité avec une... Mais vraiment, avec une élégance. Oui. Et le personnage de Nicole Berger n'est jamais filmé de manière voyeuriste, jamais de manière...
Elle est très bonne. Son interprétation est extraordinaire, parce qu'elle intègre aussi la notion de classe. C'est-à-dire que comme elle est domestique, elle est obligée d'accepter cette partie.
Oui, absolument.
Mais en même temps, elle fait sentir des réticences intérieures. Elle a un jeu d'une richesse extraordinaire.
Mais également dans Le Blé en herbe, où elle est beaucoup plus moderne, même qu'Edwige Feuillère. Elle a un jeu extraordinaire.
Mais pareil, Edwige Feuillère, dans En cas de malheur, est formidable. La femme trompée.
Formidable.
Mais donc, effectivement, on parlait d'un cinéma féministe, c'est toujours les femmes qui portent, on va dire, l'étendard de la révolte, mais en tout cas, qui font bouger les lignes.
Mais en tout cas, il y a souvent, effectivement, des personnages féministes de jeunes femmes, comme dit Bertrand Tavernier, sur lesquelles, manifestement, moi, j'ajouterais un petit quelque chose, pour lesquelles il y a une sorte de compassion du réalisateur. Ça se voit dans la Vinca du Blé en herbe, dans la Brigitte Bardot, Yvette, dans En cas de malheur, et ça se voit dans des films ultérieurs, notamment les deux journaux d'une femme en blanc, avec dans le premier, la mort d'une jeune femme qui s'appelle Mariette, qui a fait un avortement clandestin parce qu'à l'époque, en 1965, l'avortement et la contraception n'existaient pas, et qui meurt avec des séquences d'une force assez extraordinaire. Il y a Michel Mardor qui a parlé d'une sombre poésie à propos de cette séquence de la mort de Mariette, et je trouve que la formule est très juste et très, très belle. Et encore dans son dernier film, Gloria, qui a beau être adapté d'un roman sans doute de Marcel Dassault, mais un roman à l'eau de rose, autant Lara, qui a fait l'adaptation tout seul, a tiré l'histoire dans un sens à lui, et le personnage de Gloria, qui est une danseuse qui réussit à devenir de ce qu'elle voulait être, mais est obligée de faire face aussi à des obstacles qui viennent de ses parents et globalement de la société.
Oui. Alors, tant qu'on est au rayon des femmes, j'aimerais que vous nous éclairiez un
rayon
peu
d'âme.
Sur l'apport de sa femme, Ghislaine, Guylaine Ghislaine Auboin, qui a été assistante, là, qui après s'appelle autant Lara dans certains génériques, et qui est là presque dès le début, qui va le tempérer quand il commence à vouloir tout casser avec les producteurs quand ça marche pas. Est-ce que vous...
Alors,
c'est quelqu'un de très important.
Oui, mais j'ai eu du mal à approfondir cette question-là, mais j'ai eu le témoignage de plusieurs personnes, notamment quelqu'un qui est décédé maintenant, mais qui a été l'assistante ou co-régisseur sur les journaux, et qui m'a dit que Ghislaine avait effectivement une très forte personnalité, elle était cultivée, elle était intelligente, et elle avait un ascendant net sur lui, et elle l'a aidé à arranger les relations avec les gens, c'est-à-dire à faire passer ses colères ou ses brusqueries. Et manifestement, évidemment, elle a dû aussi jouer un rôle pour le choix des œuvres. Par exemple, le Franciscain de Bourges, c'est un texte qui était paru et que Ghislaine avait repéré parce qu'il y avait eu une émission à la télévision, et c'est elle qui l'a suggéré à son mari. Donc, elle a joué un rôle effectivement très, très important. Et je crois qu'on l'a dit avec Bertrand Tavernier, mais on peut penser que ces dérives de la fin de sa vie sont peut-être dues, enfin, ou peuvent s'expliquer en tout cas, par, bon, sans doute une exacerbation de ses rancœurs personnelles.
Oui, parce qu'il ne tourne plus. Après Gloria en 77, il ne tourne plus alors qu'il a encore envie de tourner.
Exactement. Mais ça peut s'expliquer aussi par l'absence de cette espèce de contrôle bienveillant, mais quelquefois autoritaire, mais d'une autorité qu'il acceptait, parce qu'il n'acceptait pas n'importe quelle autorité, hein, le père Lara. Je crois que Bertrand Tavernier en sait beaucoup. Mais cette absence de contrôle et d'influence qui devait être toujours bienfaisante, a dû jouer un rôle pour le laisser aller le plus loin et très loin, jusque presque à des extrêmes évidemment contestables ou condamnables, dans les années 80 et 90, parce qu'elle est morte relativement tôt, elle est décédée d'un cancer en 1967.
Oui, mais c'est certain. Il n'y a aucun dérapage
tant qu'elle est là.
Également, je pense à Monteuse, avait un rôle aussi pacificateur.
Ah oui, Madeleine Gugue.
Madeleine Gugue avait un rôle pacificateur. Je pense que les femmes, il était très attaché aux femmes, Lara, et que savait, et que son côté soupe au lait, colérique, qui l'a amené aussi à prendre des positions fortes. Ça, il n'a pas que des inconvénients, mais elle le soutenait. Dans beaucoup dans le combat, mais aussi elle le freinait, et Lara le reconnaît, il y a elle m'a empêché de faire des conneries. Et après, Max Douy, moi, m'a dit, quand il a vu les garçons, il me dit, oui, c'est depuis la mort de sa femme, et aussi, quand il s'est éloigné d'Orange et Bost. Orange et Bost, c'était ses consciences. Il craignait Bost, il craignait le jugement de Bost. Il ne l'aimait pas, il ne comprenait pas le côté très rigoureux, très protestant de Bost, qui était un homme admirable, hein, mais qui pouvait être, qui pouvait avoir un regard très
critique,
très critique, hein, très critique et laconique. En quelques mots, hein. Je me souviens que Orange, quand on écrivait des scènes ensemble, il disait maintenant on va passer devant le Sénat, parce que Bost avait été rédacteur au Sénat, c'est lui qui était
pendant des années. Le style stendhalien sec et
oui, et il disait sans fioritures. D'ailleurs là, c'était le plus grand apprentissage de la bêtise humaine, m'avait dit Bost de voir rédiger toutes les interventions au Sénat là. Et Bost, dont on découvre des choses. Chaque fois, on découvre des choses formidables. C'était l'exécuteur testamentaire de Jean Prévost. Et on a publié toutes les lettres, la correspondance de Bost et de Prévost, qui est formidable. Formidable, la façon dont ces deux hommes se retrouvaient. Là, c'est Bost qui a fait publier toutes les œuvres posthumes, toutes les œuvres de Jean Prévost. C'est lui qui aussi a découvert Queneau et Marcel Aimé quand il était là.
Alors justement, là, vous évoquez Marcel Aimé, le moment est venu de faire entendre quand même un extrait de ce qui est peut-être un des tubes, on peut oser l'expression, Jean-Pierre Blesse, de Claude Autant-Lara, le film qui est devenu aussi patrimonial que le Corneau, qui est diffusé, rediffusé, ouais. Hyper diffusé, multidiffusé à la télévision depuis des décennies, c'est bien évidemment La Traversée de Paris.
Mais c'est qui nous jetterait aux flics, ces braves gens-là? Hein?
Et après, Monsieur Paul, voulez-vous aider mon mari à mettre ses colis sur le trottoir?
Allez, pas de bon Dieu! Ce machin-là, c'est pas fait pour les pauvres. Ah, écoutez, monsieur, partez sans histoire. Ici, c'est une maison tranquille.
Et honnête!
Honnête! Seulement, t'emploies des juifs dans un établissement public, hein?
Mais je n'emploie pas. Elle me rend service.
Ah, parce que tu l'exploites en plus. Dis donc, j'ai bien envie de te dénoncer, moi, pour t'apprendre à vivre. Tu vois, on fait des lois, alors à quoi ça sert si on les respecte pas? Racaille.
Ah, laisse tomber, écoutez pas ce qu'il dit.
Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi, ça me révolte. Saloperie, je te foutrais tout ça en prison, moi. Parfaitement, pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français. Et puis d'abord, vos noms, situation de famille et tout. Allez, hop, déballez. Hop.
couronne Alfred, né le 23 septembre 83 à Aubenas, Ardèche, et couronne Lucienne, né Grenaille, 49 ans sans enfant, employé à Alauvin jusqu'en 1937, condamnation néant, situation militaire...
Suffit, j'en sais déjà trop! Non, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise, avec du mou partout, du mou, là, du mou! Mais tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Et l'autre à la rombière, la gueule en gélatine et sans doux, trois mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche, 50 ans chacun, 100 ans pour le loup, 100 ans de conneries!
Où est-ce qu'il va chercher tout ça?
Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister, hein?
Mais je...
Tais-toi! Tais-toi! Allez, vas-y!
Oui, mais...
Allez, vas-y, mon joli! Vas-y, mon petit prince! Vas-y, bon Dieu, c'est ton droit! Tu vois bien qu'ils disent rien! Allez! Allez!
Ben, là, tiens! Tu sais où ils vont, Martin? Ben, ils vont prévenir les flics! Oh, mais arrêtez, j'ai beaucoup mieux que ça pour vous, moi! Vous êtes quatre hommes avec des bras, nous, on est que deux! Hé! Qu'est-ce que vous attendez pour foutre le corps avec nos valises? Hein? Allez, reniflez-moi ça, sentez-moi ça, ça sent bon. Vous qui mangez que du boudin à la sûre et buvez de l'eau du robinet. Vous avez à bouffer pour trois semaines là-dedans. Eh ben, allez-y, quoi. Vous savez bien qu'on ira pas se plaindre. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Hein? Alors, allez-y.
Regardez, tiens, ils bougent même plus. Puis après ça, ils iront aboyer contre le marché noir. Salope pauvre.
Voilà, les grands. La formule est là. Jean-Pierre Blais, ça, c'est quand même aussi un des moments les plus sombres et les plus radicaux. Alors, du cinéma,
oui,
de temps d'avant.
C'est la vision très noire qu'il donne du français moyen, si on peut dire, et de la période, de l'occupation. Il y a quand même, ça c'est sûrement personnel, mais une forme d'ambiguïté qui me gêne un peu. Parce que quand on lit la nouvelle, on voit très bien que, et puis même dans le film d'ailleurs, que Grandgilles, joué par Gabin, fait semblant d'être comme il est, c'est-à-dire de mépriser tout le monde, et il le fait pour essayer, pour mettre au jour la veulerie, la faiblesse, la lâcheté des gens qui sont là. Alors qu'il n'en pense rien. Mais comme Gabin est quand même quelqu'un qui est par nature dans la simplicité et dans la vérité, dans la franchise, j'ai un peu de mal à comprendre qu'il joue en quelque sorte le rôle de celui qui veut, du provocateur, et ça veut dire qu'il ne pense pas vraiment ce qu'il dit. Bon, cela dit, c'est un film qui est très fort et qui effectivement donne marque les gens par son ambiguïté, y compris dans la fin qui a été ajoutée par les scénaristes et qui n'était pas du tout appréciée par autant Lara lui-même, qui aurait voulu.
Bon,
ouais. Oui, il voulait supprimer cette fin, il ne la voulait pas.
Elle est très très bonne.
Elle lui a été formidable. Alors qu'elle est formidable.
Alors on va rappeler.
C'est formidable.
La fin, c'est que bien des années plus tard, Jean Gabin, après les vols, sans le savoir, retrouve Bourvil, mais. C'est donc à la gare de Lyon. Jean Gabin semble avoir fait une florissante carrière de peintre, qui était déjà annoncée dans le film. Mais par contre, Bourvil, lui, s'est enterré dans une espèce de misère sociale. Et Bertrand
Tavernier,
il est porteur. Et la dernière fois, est toujours les valises des autres.
Toujours les valises. Il n'y a pas des autres. C'est une des. Moi, j'ai toujours connu Orange se débattant avec des valises. Chaque fois, il passait d'une maison à l'autre, d'une ville à l'autre, et je le voyais toujours arriver avec une ou deux valises qui étaient souvent mal attachées, qui m'en allaient, et il parlait toujours de l'enfer des valises, et je pense qu'il s'est vengé dans ce, il a fait tout ce film, pour se venger de gens qui doivent trimballer des valises. C'était sa vie. Il est tout le temps, et on le voit d'ailleurs dans le personnage que j'avais écrit de Laisser passer, il est tout le temps à transbahuter des valises d'un endroit à un autre. Là, c'est ça. Là où je suis pas d'accord avec Jean-Pierre Blais, pas tout à fait, c'est que, oui, Gabin, il est, on croit ce qu'il dit comme il est, puis après on va le voir dans une scène au téléphone en train de citer un poème d'Henri Heine, d'Heinrich Heine, comme ça, là. On le voit dans la scène de la commandanture, totalement différent, et là son attitude change du tout au tout, et c'est là qu'on comprend, et il est tout aussi vrai, à ce moment-là, on voit qu'il avait... que c'était fabriqué. Et je pense, c'est aussi, ça me gêne toujours quand on dit que le film est hyper noir, parce que il y a une tendresse pour Bourvil.
Ce qui n'empêche pas.
Il y a une tendresse.
Toute cette fin est dans la tendresse.
Il y a toujours une forme de, il y a très souvent chez Lara une forme. C'est pas quelqu'un qui avait une vision. Il y a certains metteurs en scène où c'est où tout est atrocement noir. Par exemple, Douce est un film qui est empreint de compassion. Le personnage de Jean de Bucourt, c'est un des personnages les
très
plus
émouvant,
bouleversants.
Le père handicapé.
Oui, c'est un des personnages les plus bouleversants de l'œuvre de Lara. Donc c'est pas quelqu'un qui va tout traiter dans l'âpreté.
Il n'est pas dans le cynisme et la dévastateur.
Il n'y a aucun cynisme chez Lara.
Tout à fait.
Il n'y a aucun cynisme. Non, il y a une âpreté, il y a une dureté, il n'y a pas de cynisme non plus chez Mirbeau. C'est des gens qui sont dans la dureté de ton. Ce qui n'est pas le cynisme. Le cynisme, c'est quand ça implique qu'on va avec, qu'on fait semblant de jouer le jeu, etc. C'est beaucoup plus, je trouve, le mot âpre convient beaucoup mieux, une dureté, mais très souvent, et Lara lui-même le sous-estime, ça, sa capacité de compassion. C'est comme s'il avait peur de se montrer.
D'être accusé, d'être.
Gentil. Et d'ailleurs, les cinéastes, on mettait toujours en valeur leur côté noir parce que ça tranchait sur le cinéma hollywoodien, mais on oubliait tout ce côté. Parce que même Clouseau, il y a des moments de compassion extraordinaires dans Le Corbeau et dans Quai des Orfèvres. Hein. Le personnage de Larquet dans Quai des Orfèvres, du chauffeur de taxi.
Mais c'est court quand même.
Mais oui, mais c'est...
Oui, mais ça nourrit l'œuvre.
Ça illumine. Formidable.
Jean-Pierre Blesse, Claude Autant-Lara, avec une préface de Bertrand Tavernier, donc un maître-livre qu'il faut absolument lire, près de 60 années d'histoire du cinéma français. C'est aux éditions Actes Sud. On termine cette émission avec Christophe Beer.
La corruption policière dans L.A. Confidential, Burt Lancaster sortant d'un taudis de Bunker Hill dans Criss Cross et les paumés de Nathanael West rêvant de gloire trouvent leurs origines dans une Dark City trouée de balles, comme la couverture cartonnée du livre que Taschen consacre au Los Angeles des années 20 à l'après-guerre. Ville du glamour hollywoodien, des tripots clandestins et des camps nudistes à l'architecture disparate et excentrique. Les documents réunis par Jim Heyman font une large part au sordide des tabloïdes. Scènes de crime, ruelles des Cathy, macabées des morgues, saisies au vif par des professionnels de l'image choc. Blasés ou fascinés par tout ce que vomissent Subur et l'ergastule, ces arpenteurs dressent une radioscopie dérisoire de la déchéance. Arcades néonneuses de Venise, bar miteux du quartier mexicain, cuisses lasses des effeuilleuses du Follies Theater, cadavres de femmes nues, poupées belmériennes contorsionnées dans une malle, têtes réduites de givaro en contrebande qui réjouissent les flics, le regard d'abîme de l'élégant North Scott, violeur d'une vingtaine de gamins dans son poulailler, les tuant d'une manche de hache avec la complicité de sa mère. Robert Mitchum sortant libre du tribunal après avoir été arrêté pour détention de marijuana. Des prédicateurs s'ajoutent aux impostures, purifiant la fange. Hyman retient les Ballards, sectateurs du culte de Saint-Germain, divinité dégageant un prétendu rayon violet, couleur fétiche de Madame. Leur fils Donald aurait fait couler des sous-marins nazis par la seule puissance de son esprit. La folie tue avec Ralph Hilton, barbe christique, dont les patients cramponnés à des fils électriques ingèrent des aliments traités cosmiquement dans son usine de Long Beach. La foi fait rire quand Louis Wemnay, menuisier, fabrique la plus grande Bible du monde, 8048 pages géantes pour le temple de la vérité. Elle est la ville de tous les excès. Son mauvais goût inspira Aldous Huxley dans Jouvence. La voiture roulait vers l'ouest et derrière, les rayons obliques du soleil illuminaient tel un projecteur chaque structure, chaque enseigne perchée dans le ciel, chaque panneau publicitaire, comme pour montrer aux nouveaux arrivants tous les hauts lieux. Snack, cocktail, ouvert la nuit. La voiture filait droit devant et là, au milieu d'un terrain vide, se dressait un restaurant en forme de bulldog assis, l'entrée située entre ses pattes avant, ses yeux lumineux. Mets soignés, cône glacé géant, Jésus vous sauve, hamburger, astrologie, numérologie, lecture psychique, entrée, Ici, on sert des burgers aux noix.
Merci Christophe Beer, merci Jean-Pierre Blesse d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Merci
plaisir,
à vous, Bertrand Tavernier. Et puis on voit avec grand intérêt donc dans la deuxième série de votre voyage au cœur du cinéma
français. Qui passe
français.
Quand alors ?
Alors en septembre, voilà, sur en septembre. France 5, les 8 épisodes.
Et après une édition DVD.
Une édition DVD chez Gaumont.
Sera bien évidemment au rendez-vous avec vous pour en reparler avec un très très beau moment consacré à Claude Autant-Lara. Et donc bien sûr, on conseille plus que chaudement Claude Autant-Lara de Jean-Pierre Blesse, préface donc de Bertrand Tavernier, chez Actes Sud dans la collection Institut Lumière, un livre d'une fluidité, d'une érudition et d'une fièvre tout à fait exemplaire dans l'histoire du cinéma. Toute l'équipe de nous remercions bien évidemment également pour l'enrichissement de cette émission, Pascaline Bonnet, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Catherine Dorothée, Somme, Boutata, Claire Martin Dugard, Céline Duchesnel, Philippe Houillet, Christophe Biré, François Angelier, vous remercie d'avoir suivi ce Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission polar avec Sébastien Meyer et Benoît Philippon. Bonsoir à tous.